France Inter. 7-10.
Lundi 25 mars, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, incertitude au Sénégal au lendemain de la présidentielle.
L'opposant numéro 1 crie victoire, mais le camp présidentiel ne s'avoue pas vaincu. Nous sommes à Dakar dès le début du journal. À Moscou, l'incarcération cette nuit de 4 hommes présentés par les autorités comme les suspects de l'attentat de vendredi. Mobilisation à Amiens aujourd'hui pour défendre la dernière usine de lysine d'Europe, un composant chimique des médicaments. Et puis plus de ski dans les Alpes, la dernière épreuve de la saison annulée hier en Autriche.
Invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h15, le début d'une semaine de Zoom au Rwanda à l'approche des commémorations des 30 ans du génocide. 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Que reste-t-il de la droite française face à l'ogre lepéniste? Question à François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains aux élections européennes après son premier meeting de campagne.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le politologue Gilles Kepel pour son livre Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. C'est paru chez Plon. 9h20, Léa Salamé reçoit Victoria Beckham.
France Inter.
Le Sénégal n'a jamais été aussi près de l'alternance politique. Après 3 ans de crise, le scrutin présidentiel d'hier pourrait bien rebattre les cartes. Aucun résultat officiel, ce qui incite à la plus grande prudence. Mais les médias et les réseaux sociaux du pays placent le candidat anti-système largement en tête. Hier soir, Bassirou Diomaye Faye, sorti de prison il y a 10 ans, pourrait devenir à 44 ans le plus jeune président du Sénégal. Il semble avoir pris le pas sur le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba. Reportage à Dakar de nos envoyés spéciaux Jérémy Tulle et Omar Ouaman.
2 heures à peine après la fermeture des bureaux de vote, des dizaines de sympathisants de Bassirou Diomaye Faye se sont retrouvés au siège de campagne pour faire la fête. Samba Koli, un militant de la première heure.
J'ai même pas les mots, franchement. Très heureux parce que là, je pense que c'est plié.
C'est plié.
On a gagné. Vive le changement, vive Diomaye, vive la jeunesse. Ils ont voulu basculer le pays dans le chaos. Nous, on a dit que non, on va aux élections et on va les gagner d'une manière démocratique, franchement.
Et ce siège de campagne est vite devenu trop petit, pris d'assaut par une foule survoltée. Et Mariam, directrice d'une société de communication.
Je suis trop fière. Personnellement, je me suis battue pendant des années pour que ce jour arrive demain. Moi, en tant que directrice de société, j'ai demandé à mes employés de ne pas venir travailler. On va faire la fête jusqu'au mercredi.
Dans le camp adverse, au quartier général du candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, l'ambiance était beaucoup moins gaie. Pour Cheikh Brahim Bey, un responsable politique, rien n'est joué.
Ce sont des manipulateurs. Nous sommes devant. Ce qui est sûr et certes, que le président Amadou Ba, Inch'Allah, sera déclaré président du Sénégal. Parce qu'on est confiant, c'est simple.
Les résultats officiels ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine. Mais plusieurs candidats ont d'ores et déjà félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire.
Omar Ouaman à Dakar, et s'il devait y avoir un second tour, aucune date n'est encore fixée pour l'instant. À Moscou, journée de deuil hier, drapeau en berne après le terrible attentat de vendredi, 137 morts dans une salle de concert et plus de 180 blessés. Attentat revendiqué par le groupe État islamique, mais de cela, les autorités russes ne parlent pas, évoquant plutôt une piste ukrainienne. Et c'est donc dans ce contexte que les forces de l'ordre russes annoncent l'arrestation très rapide de plusieurs personnes. 4 d'entre elles présentées comme les auteurs de l'attaque, placées en détention. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes notre correspondant permanent à Moscou. Le tribunal a même largement diffusé cette nuit des images de leur comparution. Mise en scène, Sylvain, complètement glaçante.
Oui, c'est une scène qui illustre la violence légitime de l'État en Russie. 4 hommes arrivant au tribunal en pleine nuit, entourés de membres du FSB cagoulés. Les 4 suspects portent tous des traces de sang au visage. Ils ont les ragards. Les forces de l'ordre n'ont absolument pas cherché à dissimuler les traces des tortures qu'ils ont subies. L'un d'eux porte un énorme bandage sur la tête. On lui a découpé un morceau d'oreille au couteau. Un autre porte autour du cou les restes d'un sac plastique. Un autre, enfin, qui ne peut pas marcher et est transporté sur une chaise roulante et muni d'une sonde urinaire. L'audience s'est tenue à huis clos, mais le pouvoir russe n'a pas diffusé ces images par hasard, tout comme il n'a probablement pas fait fuiter par erreur sur les chaînes Telegram des propagandistes une photo où l'on voit l'un des suspects apparemment torturé à l'électricité. Les forces de sécurité russes sont pointées du doigt aujourd'hui par une partie de la population pour leur manque de réaction vendredi soir, leur incapacité à prévenir cet attentat. La réponse est donc arrivée hier soir. Il est possible que les 4 suspects soient bien les membres du commando qui ont attaqué le Crocus City City Hall vendredi. Mais que valent leurs aveux prononcés hier soir dans ces conditions?
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Et puis à la suite de cet attentat, la France rehausse le niveau Vigipirate à son niveau le plus élevé. Matignon précise hier soir que le groupe qui a revendiqué l'attaque, à savoir le groupe État islamique au Khorassan, ce groupe menace la France et a été impliqué dans plusieurs projets d'attentats récents déjoués dans plusieurs pays d'Europe, en France et en Allemagne notamment, précise le Premier ministre.
Il est 7h06, un nouveau dossier emblématique, Anaïs, des enjeux de souveraineté pharmaceutique et alimentaire.
Mobilisation aujourd'hui à Amiens pour la dernière usine d'Europe à produire de la lysine, placée en redressement judiciaire la semaine dernière. La lysine, ce sont des acides aminés indispensables pour l'alimentation du bétail d'élevage, mais qui entrent aussi dans la composition de l'aspégique. L'entreprise Metex utilise un procédé alternatif à la pétrochimie avec un bilan carbone 5 fois plus faible que la production chinoise. Mais voilà, les 300 salariés d'Amiens sont inquiets. Leur usine est en cessation de paiement, Claire Chaudière.
Pour fabriquer cette lysine, ces acides aminés que l'on retrouve dans la nourriture des porcs ou des poulets, il faut du sucre pour la fermentation, du sucre en très grande quantité. Or, deux gros problèmes se sont superposés l'an dernier, explique Rudolf Hidalgo, le directeur général adjoint de Metex.
Un problème de compétitivité parce que nous continuons à toucher un sucre globalement au prix mondial, c'est-à-dire entre 750 et 800 euros la tonne, alors qu'on a des concurrents à l'autre bout du monde qui le touchent entre 400 et 500 euros.
Et parallèlement à cela, une lysine chinoise à prix cassé a inondé le marché français, achevant d'asphyxier financièrement l'entreprise. Une entreprise, insiste-t-il, pourtant stratégique.
À la fois l'amont de la chaîne, les sucriers et l'aval de la chaîne, tous ceux qui nous achètent la lysine pour la nutrition animale, ont besoin que cette usine reste là, en France et au cœur de l'Europe.
Car débarrassée de toute concurrence européenne, ces acides aminés asiatiques pourraient voir leur prix cette fois flamber. L'aspégique ne pourrait plus, lui non plus, être produit en Europe. Samir Benyaya pour la CFDT espère une intervention rapide de l'État.
Il y a vraiment urgence. On perd de l'argent chaque mois. Le gouvernement, il nous parle tout le temps de la souveraineté alimentaire. Bah, c'est le moment de le prouver. C'est vraiment une catastrophe pour l'économie locale.
Et même bien au-delà, en comptant les sous-traitants, ce sont en réalité, assure la direction, près de 2000 emplois qui sont aujourd'hui menacés.
Rassemblement prévu cet après-midi devant les grilles de l'usine Metex d'Amiens. On y attend la France Insoumise, le PS et le RN. Au journal La Provence, le directeur de la rédaction qui avait été mis à pied pour une sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille a été réintégré. Les journalistes s'étaient mis en grève illimitée. Emmanuel Macron qui atterrit dans 3 heures en Guyane, visite dans un département en difficulté entre insécurité et pillage des ressources des pêcheurs. En 2017, lors de sa dernière visite, le chef de l'État avait promis la création de centres sociaux, ils étaient alors inexistants. Grâce à la CAF, il y en a désormais 12. Maxence Lambrec s'est rendu dans l'un d'entre eux à Cayenne.
Ce n'était au départ qu'une petite association avec Karine.
On est resté en itinérance pendant 2 ans dans le quartier quand même. On louait des petites tentes, on allait sur les terrasses des habitants, on restait sur les terrains vagues. La voiture était petite, le matériel n'était pas nombreux, mais on avait quand même le soutien de plein de familles qui nous disaient, bah non, lâchez pas.
Bienvenue.
Des familles, des jeunes, désormais accueillis dans 2 maisons mitoyennes.
Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations terribles et ces gens de lieux-là les permettent de sortir de leurs isolements, de rencontrer d'autres familles. Et c'est super important en fait.
Marie-Laine en a elle-même bénéficié, la voici médiatrice.
On essaye de rattraper avant que ça dérape.
Rattraper ceux qui quittent l'école dès la 3e, plusieurs milliers chaque année, qui ne s'en sortent pas avec leurs jeunes enfants ou ne parlent pas français. Solé, la directrice du centre.
Parfois, t'as l'impression que c'est des petits grains de sable parce que là, vraiment, les besoins sont énormes, d'une population qui explose, quoi, qui continue à exploser, que ça ne s'arrête pas. Quoi. Plus toutes les personnes qui arrivent des pays limitrophes, d'Haïti.
Du Suriname et même de Syrie via le Brésil. Pour développer ces centres, Isabelle arrive de Lille et demande de la souplesse.
On n'est pas là pour faire un copier-coller de ce qui se passe dans l'Hexagone. Non, ce n'est pas les mêmes habitants, ce n'est pas les mêmes besoins.
Emmanuel Macron vient justement promouvoir le fait maison, les dérogations, ici où on croise autant de cases en tôle que de pirogues.
Reportage à Cayenne, Maxence Lambrec. Et puis le gouvernement présente aujourd'hui sa stratégie de lutte contre les maltraitances des personnes vulnérables. Ça passera entre autres par des contrôles dès l'année prochaine dans les 9200 établissements qui accueillent des personnes handicapées.
Il est 7h10, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens interdite de toute livraison d'aide à Gaza.
Le chef de l'UNRWA a annoncé hier que les autorités israéliennes n'approuvent plus de convois dans le nord du territoire. Aucune raison n'a été donnée selon l'agence. Le Conseil de sécurité de l'ONU tentera à nouveau aujourd'hui d'adopter un texte sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération des otages. Au Brésil, des dizaines de morts dans des inondations et des glissements de terrain, des scènes de désolation, des villes englouties sous l'eau d'où ne dépassent que quelques toits, surtout dans l'état du Espírito Santo. Passage d'une tempête qui balaye aussi Rio, 200 mm de pluie par jour, quelques jours à peine après un record de chaleur. Dans la Meuse, une nouvelle bataille autour du site de stockage de déchets hautement radioactifs de Bure. Depuis une semaine, l'Andra a lancé des expropriations pour disposer des terrains nécessaires au projet Cigéo, qui vise à stocker à 500 mètres sous terre les 3% de déchets nucléaires français les plus dangereux qui resteront radioactifs plusieurs centaines de milliers d'années. Plus de 80% des 600 hectares nécessaires ont déjà été achetés et ces derniers jours, les courriers viennent d'arriver chez 300 propriétaires. Rémi Brancato.
Dans cette vallée à quelques kilomètres au sud de Bure, à Cirefontaine en Ornois, l'Andra a prévu de faire passer des trains de déchets radioactifs.
Le chemin de fer, il va passer devant moi.
Jean-Pierre Simon, paysan, travaille sur ces terres. Il vient de recevoir le courrier qui annonce l'expropriation.
J'ai 8 parcelles impactées. On fait des champignons pour découper les parcelles. Très difficilement exploitables. C'est le rouleau compresseur qui continue d'avancer.
Alors il contestera. Tout comme Michel Labat, retraité, l'Andra veut racheter les tréfonds d'un de ces petits terrains exploités par un agriculteur, c'est-à-dire la zone située au-delà de 250 mètres de profondeur.
On nous offre une petite somme de 180 euros. Quand même, c'est se foutre de nous, ça. Le terrain ne vaudra plus rien.
L'Andra a déjà acheté 80% des 660 hectares nécessaires. À 500 mètres sous terre, dans les galeries où les tests se poursuivent, Patrice Torres, le directeur industriel, rappelle que le projet est déclaré d'utilité publique.
Il ne s'agit absolument pas d'un bulldozer. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes sur le territoire. C'est un projet qui a bénéficié déjà de 3 lois. Stocker les déchets radioactifs les plus dangereux, c'est protéger l'homme et l'environnement d'aujourd'hui et l'homme et l'environnement de demain. On a besoin de cette solution de stockage.
Les opposants ont organisé une réunion la semaine dernière pour fédérer les propriétaires mécontents et retarder au maximum les expropriations.
Reportage Rémi Brancato dans la Meuse. En ski, la saison est terminée. La dernière épreuve de la descente tant attendue hier en Autriche a été annulée. Elle aurait dû départager le Suisse Marco Odermatt du Français Cyprien Sarrazin. C'est le Suisse qui remporte le globe de cristal grâce à son avance au classement. Guillaume Batin, cette saison confirme en tout cas les problèmes d'enneigement des massifs.
La saison s'est terminée comme elle avait commencé à Zolden en octobre dernier par une annulation. Il y en a eu 16 au total. Zermatt, Cervinia, Chamonix, Kranjskagora, la liste n'a jamais été aussi longue. Plus 5 reports dans tous les massifs, en Europe mais aussi en Amérique du Nord. 21 courses perturbées au total sur 80. C'est un quart de la saison du jamais vu. Deux fois plus qu'en 2022-2023 qui était déjà une saison record. Le skieur français Cyprien Sarrazin.
Ah ouais, bah là c'est sûr qu'il y a les faits. C'est compliqué, ça a été compliqué cette année. Il faudra faire au mieux pour la suite et adapter. Il faudra qu'on s'adapte et qu'on évolue. On ne peut pas continuer comme ça. On nous l'a prouvé encore cette année, quoi. Mais je ne peux pas trop en dire plus. J'ai pas les solutions.
Et pourtant, les stations ont tout essayé. Stockage, transport par camion et canon à neige, le sel et l'injection d'eau dans la piste. De quoi faire réfléchir les diffuseurs et les sponsors qui cautionnent et investissent des millions dans un sport que le changement climatique met en sursis.
Explication signée Guillaume Batin.
Et merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui, premier épisode de notre série au Rwanda à l'occasion des 30 ans du génocide consacré aux stigmates des victimes.